Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre podcast numéro 13 sur lequel nous allons revenir sur l'actualité du cinéma asiatique du mois de mars 2014. Pour ce faire, parler des films qui sont sortis en cinéma, en DVD, j'ai le plaisir d'accueillir Alex de Cinasi. Salut Alex.
Bonjour à tous.
Sidi de Ceci dit Obama.
Salut.
Elvire.
Salut.
Nicolas.
Salut.
Justin.
Salut.
Julien.
Salut.
Et Yannick.
Salut.
Très bien. Je pense qu'on entend tout le monde. Ça va. Je n'ai pas l'impression qu'il manque quelqu'un.
Non.
Et c'est justement bien dommage, car le premier événement dont on va traiter, c'est un réalisateur qui, lui, va nous manquer, qui est Alain René, qui s'est éteint le 1er mars, donc en ouvrant ce mois. Et c'est vrai que ça nous semblait important de revenir sur, très brièvement, sur la carrière du réalisateur, non seulement parce qu'il a signé en 1958 un film majeur pour la modernité cinématographique et une œuvre pivot dans les relations cinématographiques entre la France et le Japon, mais aussi parce que c'est un cinéaste qui nous touche, qui nous tient à cœur, et particulièrement toi, Sidi, j'ai l'impression, puisque tu nous as écrit un très bel article qui lui rendait hommage la semaine dernière.
J'espère ne pas être le seul à admirer l'œuvre de René parmi nous, ce serait quand même assez tragique. Mais j'avoue avoir été assez intimidé lorsque vous m'aviez proposé d'écrire cet hommage, parce que Alain René est un cinéaste dont j'avais vu effectivement la plupart des films, surtout les plus récents. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à lui, comme beaucoup, au moment d'On connaît la chanson, son grand succès populaire. Et ensuite, je suis un peu remonté aux origines de son travail. Le fameux film, le moyen-métrage Nuit et brouillard, effectivement Hiroshima mon amour, Marianne Bad. Ce qui est intéressant lorsqu'on m'a proposé cet hommage, c'était de comprendre un peu mieux ce qui me relier à son cinéma. Il y a des auteurs auxquels on est attaché presque naturellement, qui nous accompagnent, genre Romer, genre Chabrol. Et puis il y a des auteurs dont on aime ponctuellement certains films, dont certains nous indiffèrent un peu plus, et dont au moment de la disparition, on se demande un petit peu si on a un petit bilan à faire avec soi-même. Donc ce qui a été intéressant, ça a été de revoir ces films, ceux qui m'avaient le plus marqué notamment, et de comprendre un petit peu mieux quel pouvait être, en tout cas selon moi, le fil conducteur du cinéma de René, et il se fait que c'est un cinéma vraiment très cohérent, je pense de bout en bout, qui a été toujours un peu hanté par cette question de la mort, cette question de l'histoire, même si son cinéma a semblé plus léger dans ses dernières années et qui s'est permis des récréations, notamment Pas sur la bouche, Les herbes folles, des films qui allaient un peu du coq à l'âne, il y a toujours eu effectivement cette question de la hantise, cette question des fantômes. Vous voulez me relancer sur certains points? Ça serait...
C'est intéressant justement que tu parles de cette présence de la mort, de cette présence des fantômes. Comme on est sur Estasia, qui est un site de cinéma asiatique, c'est vrai qu'on sait... la manière dont on pouvait en parler, je me suis aussi demandé de quelle manière, outre Hiroshima mon amour, qui a un rapport évident avec le Japon, son œuvre pouvait être en rapport avec l'Asie, ou avait pu irriguer certains cinéastes japonais. Et en parlant de fantômes, c'est vrai qu'on a même posé la question à Kurosawa sur Reel, s'il avait vu Je t'aime, je t'aime, qui est un film qui peut s'en rapprocher, puisque dans Je t'aime, je t'aime, qui est un film de 68, en fait un homme est branché à une machine et voyage dans le temps, et en fait voyage dans ses souvenirs et revit une relation amoureuse. Ce qui fait qu'il y a des thématiques qui sont très proches de Reel. Bon, il se trouve que Kurosawa a oublié apparemment ce film et ne l'a pas vu, mais reste qu'effectivement il peut y avoir une influence souterraine du cinéma de René sur certains cinéastes asiatiques qu'on aime beaucoup. Et je crois qu'on en avait parlé notamment lors du podcast de Hong Sang-soo. Et j'ai l'impression, par exemple, que Smoking No Smoking est une sorte de matrice un peu souterraine, un peu secrète, de beaucoup de films de Hong Sang-soo, dans lequel le quotidien se fait... il y a des multiples possibles qui se créent dans le quotidien, et le cinéma nous les présente tous en même temps. Et notamment dans In Another Country, on retrouve un peu ce même schéma qu'il y avait dans Smoking No Smoking.
Oui. Non, mais je oui. Mais si quelqu'un d'autre veut parler, je veux vraiment pas être dépositaire de la question René.
Absolument pas. J'ai vu qu'un seul film dans ma vie.
Oui. J'ai vu son dernier. Comment tu peux interpréter son dernier par rapport à la carrière du réalisateur, si tu l'as vu?
J'ai pas encore vu malheureusement son dernier, Mémoire chantée, mais c'est vrai que le précédent. Vous n'avez encore rien vu, m'a vraiment interpellé, dans le sens où j'avais été relativement déçu par Les Herbes Folles, que je trouvais très intéressant, qui m'avait pas déplu, mais où j'avais l'impression que son désir un petit peu de légèreté l'amenait un peu nulle part. C'était un film d'autant plus abouti qu'il pouvait sembler un peu inconséquent. C'est-à-dire qu'une fois vu, j'avais le sentiment qu'il s'était simplement fait plaisir à lui-même et ça ne m'avait que très peu parlé, contrairement au tout précédent. Décidément, je vais remonter encore. Par rapport à Cœur, qui me semblait un film justement où on avait l'impression qu'il revenait un petit peu dans la veine de L'amour à mort au début des années 80, où il abordait un peu le thème de la peur de vivre. Enfin, il y a toujours eu quelque chose de très anxiogène, malgré la légèreté dans son cinéma. Et dans un film comme Les Herbes Folles, où il y avait aussi cette question de l'angoisse profonde qui pouvait nous amener nulle part et partout, j'avais l'impression qu'il se perdait un petit peu, et que, dans Vous n'avez encore rien vu, en recentrant un petit peu son cinéma dans une sorte d'hyper-concept, un cinéaste qui pourrait être lui, un metteur en scène, pardon, qui réunit sa troupe d'acteurs post-mortem pour leur faire rejouer Eurydice, une pièce qu'ils ont jouée pour lui à de nombreuses périodes de sa carrière. J'avais l'impression, effectivement, qu'il réussissait en recentrant un petit peu plus son travail dans un cadre très précis, avec des acteurs très précis, à une exception près qu'il avait employé précédemment. J'avais l'impression que ça lui permettait de retrouver un petit peu plus ce qui a toujours fait son cinéma. Il y a toujours eu un sens du théâtre dans son cinéma, un certain sens de la scénographie, un sens de l'artifice qui n'empêchait pas la profondeur. Et voilà, j'aurais aimé avoir vu son dernier film, parce qu'il paraît que ça se rapproche un petit peu aussi de ça, notamment quelqu'un qui réunit aussi des gens avant sa mort. Enfin voilà. Donc toujours.
Quelqu'un a vu le dernier?
Moi, j'ai vu le dernier, mais ça rejoint exactement ce que tu disais.
Le tout précédent.
Que ce soit dans la forme ou dans le fond, c'est exactement ça. Et je pense que ça te touchera particulièrement.
Bah, j'ai entendu que des avis enthousiastes, et apparemment, si on a aimé le précédent. Tu l'avais vu aussi, le précédent?
Je crois. On n'a pas un souvenir mémorable à l'époque, mais et celui-là, en tout cas, il va me rester un petit moment. Il a bien vieilli.
Il a bien vieilli.
Donc son œuvre se termine apparemment avec un film tout à fait digne. Voilà quoi,
c'est un film. Je crois que Libération avait donné un joli jeu de mots en titre, c'était Alain René avec ce film.
Donc, voilà. C'est pas mal. Je crois que je l'avais mis en statut d'ailleurs sur Facebook. Voilà. Donc voilà, non, Alain René, donc voilà, un cinéaste dont on reparlera de toute manière longtemps. Je pense qu'il n'avait absolument rien à envier à certains cinéastes plus officiellement liés à la nouvelle vague qu'on a célébré ces trois dernières années. Et voilà quoi,
c'est vrai que c'est un peu il en reste plus beaucoup finalement. Il y a Rivette et Godard qui restent en vie. Il y a Chris Marker qui est décédé un peu plus tôt cette année, je crois que c'était
l'année dernière. 2012.
Voilà, qui est un autre cinéaste, donc a des rapports évidents avec le Japon notamment et sur lequel on n'a pas assez parlé sur les
sentiers. Justement, on peut dire qu'Alain René faisait un cinéma très français dans la langue, très, très français dans l'esprit. Il y avait un humour qui pouvait sembler un petit peu un humour... Enfin voilà, il faisait un peu un cinéma parfois inspiré de l'opérette et tout ça, mais vu que c'était un cinéaste aussi très soucieux de la question de la forme, de l'expérimentation, on peut comprendre que des cinéastes, du fantastique, des cinéastes d'autres territoires, aient trouvé de l'inspiration justement dans ces films, que ce soit les anciens ou les actuels, parce que c'est vraiment un cinéaste qui a... Je ne sais pas s'il a voulu fuir le naturalisme, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait le film Deux pièces cuisine, qui rebute certains. C'était vraiment un cinéma qui était en quête permanente de la réinvention de la scène, de la réinvention des formes. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il était un éternel jeune homme. On dit aussi ça de Manuel d'Oliveira, un peu tous les cinéastes qui ont dépassé les 80 ans et qui tournent régulièrement. Mais je pense qu'effectivement, il y avait une vraie jeunesse dans son cinéma. Ne serait-ce que le titre de son dernier film qui donne aussi un sentiment de vouloir aller de l'avant toujours sans pour autant oublier, puisque la question de la mort est encore là, la question de la vieillesse est encore là, l'idée que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc il y a vraiment un côté fête du cinéma dans son art qui je pense manquera beaucoup au cinéma français, mais pas que.
Alors nous allons parler de la transition difficile à trouver entre justement le cinéma d'Alain René et un autre film qui n'est pas du tout un cinéma français de deux pièces cuisine, qui est The Raid 2, parmi les événements du mois de mars.
La transition me semble évidente.
Je suis sûr qu'Alain René aurait été très déçu justement du fait que The Raid 2 soit déplacé en juillet, alors qu'il devait sortir. Donc la date officielle, c'était Nicolas
Je ne connais pas exactement, mais c'était en avril.
C'est 23.
Ouais, 23.
Et donc le The Raid 2 est finalement, non, il l'aurait quand même pas vu malheureusement. Ouais. Et finalement décalé au 17 juillet. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas? J'ai l'impression que tu n'étais pas très content quand t'as pris la nouvelle.
Bah, disons que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, j'ai envie de dire, parce que comme le film va sortir à peu près partout d'ici fin mars là, et mi-avril, on est un peu la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire. Donc du coup, comme on sait que maintenant, avec les moyens d'aujourd'hui, Internet, tout ça, il est facile d'accéder par des moyens légaux à certains films, je pense que c'est en plus ce style de film-là est propice à ce genre d'acte-là. Donc je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied et qu'à cause de ça, ils vont perdre un certain succès, quoi.
Globalement, la sortie américaine a lieu en ce moment, donc avant la sortie française, le film sera disponible en DVD import et donc illégalement sur toutes les plateformes de téléchargement sous-titrées. Voilà. Quelles sont, Julien, les raisons pour lesquelles le film est repoussé?
C'est des raisons qu'on n'a pas le droit de dire dans un podcast, tu les auras pas.
Non, mais la raison officielle.
La raison officielle, c'est que la sortie française était trop proche en fait de la sortie américaine. Ça, c'est la raison officielle. Et qu'ils n'avaient pas eu le temps de préparer en fait le terrain pour en fait faire tout ce qui est la public de le marketing au niveau de l'affichage et tout. Ils n'avaient pas assez de temps. De toute façon, Wildside, c'est pas non plus un éditeur qui a beaucoup de temps. Ils sont toujours pressés, que ce soit pour les sorties DVD ou pour les sorties cinéma.
Après, je dirais quand même que le point positif, c'est qu'il va sortir au milieu de l'été, que c'est quand même un gros blockbuster d'action estival. Je pense que les amateurs voilà, qui sont pas forcément très fans de films de genre, c'est pas forcément vous qui nous écoutez, mais disons le grand public va peut-être voir juste The Raid 2, un gros film d'action qui joue dans les salles sur l'été, il va certainement s'y ruer, Alex.
Ouais, le problème en fait, c'est qu'on n'est pas aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'été représente la grosse période cinéma où tous les plus gros blockbusters sortent l'été. En France, pendant l'été, les gens ils vont un peu au ciné et beaucoup en vacances. Donc au mois d'avril, ils vont beaucoup au ciné et un peu moins en vacances. Après, j'espère pour le film que ça va quand même lui réserver une certaine carrière. Mais effectivement, j'ai un petit peu peur que cette sortie tardive plombe un peu une partie du film par rapport au public visé. Naturellement par ce genre de production et qui du coup va encore plus le voir illégalement.
Bon, en tout cas, public visé, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas forcément vous interdire de télécharger, mais en tout cas d'aller le voir en salle, sur grand écran quand il sortira en juillet.
Bah, de toute façon, un film est toujours mieux à moins que vous ayez chez vous une salle de cinéma. Un film est toujours mieux au cinéma que sur votre écran d'ordinateur.
Tout à fait d'accord avec ça. Mais après, ça n'empêche pas les gens aussi. Il y en a beaucoup qui font ça, qui vont d'abord le télécharger, le voir, et puis après le revoir au cinéma. Mais bon, c'est mieux de le découvrir au cinéma.
Et donc, Nicolas, on peut lire actuellement ta critique du film que tu auras vu à Beaune. Enfin, pas lors de l'enregistrement du podcast, mais lors de sa mise en ligne. Il y a ta critique qui est juste à côté de The Raid 2. Donc, parce que le film passe à la fois à Beaune et à la fois au BIF, d'ailleurs, Yannick.
Ouais.
Je croyais qu'il était parti.
Bah non.
Yannick, on va te faire parler un peu sur le troisième événement en fait, donc qu'on a sélectionné, qui est donc la semaine dernière, on a eu la première bande-annonce officielle du film Tortue Ninja, produit par Michael Bay. Est-ce que tu l'as vu et est-ce que t'attends ce film?
Alors, j'ai vu la bande-annonce, je l'attends à peu près autant qu'un ongle incarné, quoi.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a pas plu, forcément, dans cette bande-annonce?
Moi, j'ai grandi avec le dessin animé, qui est déjà une trahison du comic originel. Puisque rendu beaucoup plus enfantin. Et là, on a bah, une adaptation qui semble rester dans l'esprit enfantin, mais en rajoutant le côté bouffe et bas du front et bah, de Michael Bay, quoi, qui va, enfin, non, quoi. C'est, je veux dire, les explosions au ralenti, les gueules de crétins des Tortues Ninja, c'est pas trop ce que j'espère dans une adaptation de ça, quoi. C'est encore mon enfance qui va se faire martyriser de manière assez sévère, je pense, sur ce coup-là.
Sidi, tu me disais que t'avais, la bande-annonce t'avait agréablement surpris avant de venir.
Ah, mais les Tortues Ninja, c'est une longue histoire d'amour. Pour moi, je sais qu'il y avait eu une première adaptation, je crois, en 1990.
Steve Barron,
c'est ça. Voilà, qui m'avait pas déplu, que j'étais allé voir, je crois, avec ma classe. Ça, voilà, c'est ça. Ça nous rajeunit. Et voilà, non, j'ai une certaine excitation. Dieu sait que Michael Bay, c'est pas non plus trop mon délire. Je n'ai vu qu'un seul Transformer, alors je crois qu'il y en a déjà 4 de sortie.
Trois et demi.
Quatrième arrive.
Voilà. Apparemment.
Jusqu'à épuisement. Hein.
Voilà, ça, jusqu'à la fin de jusqu'à.
Et le quatrième est un plus ou moins reboot, apparemment.
Oui. Avec à nouveau Megan Fox, c'est ça?
Non, ils ont viré tout le monde.
Voilà.
Megan Fox, et voilà, on a pris une blonde à la place.
D'accord, c'est une part de ma vie de jeune adulte qui s'en va.
Avec Megan Fox.
Non, avec le changement radical de. Voilà, petit bide, mais c'est pas grave. Non, oui, les Tortues Ninja, bah, je suis assez curieux quand même de voir cette adaptation. Je suis sûr que ce sera un film assez mineur, mais voilà, quoi. Pour ce que j'ai vu dans le teaser, je crois que là, pour le coup, il y a Megan Fox, non?
Oui.
C'est
ça,
oui, voilà. j'ai hâte de voir un peu Splinter en mode synthèse numérique.
Pas l'impression qu'il y ait Splinter.
Ah bon? Bebop et Rocksteady. Enfin voilà, j'ai rien de très profond à dire là-dessus, mais je pense que je serai au rendez-vous quand même. Voilà.
Justin?
Non, moi ça m'a semblé pourquoi pas, parce que les rares fois où il a été juste producteur, parfois il a réussi à relancer des franchises qu'on pensait un peu perdues. Le premier remake là, de Massacre à la tronçonneuse, qui était vraiment, vraiment bien poichu, c'était quand même dans l'esprit. Et puis bon, la bande-annonce, sur les 30 secondes, l'humour a l'air quand même dans l'esprit du dessin animé. J'aime bien les tronches des Tortues Ninja. Après, c'est juste le côté blockbuster gros, même la musique, ça sent encore le Hans Zimmer. Espèce de gros. Espèce de musique interchangeable de blockbuster. Mais après, dans l'esprit, ça a l'air assez drôle. Puis à la base, le film n'était pas inoubliable quand même, ni la série. Ni le dessin animé, c'était...
Ah non, le dessin animé, bon, je ne l'ai pas revu depuis 20 ans, mais...
Même le film, n'est pas inoubliable non plus, donc c'est pas intouchable.
Justin, le mec qui te détruit tes mythologies, comme ça, je proteste. Bah, non.
Moi, j'ai revu, c'est pour ça, j'ai revu. Quand tu revois,
tu as revu le dessin animé, tu as revu la série?
J'ai revu les deux.
Et ça t'a laissé insensible.
C'est pas, à part l'effet Madeleine de Proust, c'est pas non plus intouchable.
Oui, mais voilà, quoi. Non, pourquoi détruire à tout prix?
Mais faut pas revoir la comme ça, parce qu'après tu te rends compte qu'à l'époque que c'était pourri, quoi. Que c'est aussi pourri que ce qui passe maintenant pour les gamins, que Dora et des trucs comme ça. C'est juste que à l'époque on trouvait ça fantastique, et tu te rends compte que finalement Olivier Tom, c'était une catastrophe, et que le terrain il faisait 120 km. Tu te rends compte que
on arrive dans un terrain glissant là, quoi. Autant les Tortues Ninja, c'est vraiment très mal vieilli, autant Olivier Tom,
ils avaient fait un dessin animé en...
Moi j'ai revu Musclor, j'ai pleuré, quoi.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, là, on voyait jamais Jace et des trucs comme ça, c'est animation.
Je pense sérieusement qu'à la fin de ce débat, beaucoup de personnes ne se serreront pas la main. Parce que remettre en question les Tortues Ninja, c'est déjà délicat, mais Olivier Tom, voilà, quoi, j'ai voulu jouer au foot. Aujourd'hui, le foot m'intéresse peu, mais à une époque, j'ai vraiment voulu devenir Maradona en regardant les frères d'Eric en train de faire la catapulte.
Essayer de faire le tir de l'arc et tout ça.
Ben voilà, quoi, c'est pas possible de remettre en question Et même si c'était laid, j'ai revu Nicky Larson il y a quelques années. Effectivement, les filles ne sont pas aussi jolies que je le pensais.
C'est pas pareil, Nicky Larson.
Ah, maintenant, on va réhabiliter. Ah, bah,
voilà. En plus, c'était censuré dans tous les sens, alors que à la base, c'est quand même.
La version Club Dorothée, c'est.
Oui,
c'est,
oui,
c'est,
ah oui, j'ai assez charcuté, il ne restait pas grand chose.
Je vous propose de faire un prochain podcast
spécial manga.
Est-ce que la nostalgie est compatible avec la cinéphilie quand on parle des séries de
très bien.
Par contre, toujours sur Tortue Ninja, ils avaient fait un dessin animé aussi en 2007 qui était sorti en salle. Était vachement bon, j'ai trouvé ça pas mal. Ils avaient réussi à peu près.
J'ai dit que c'était moyen.
Ouais, ils avaient rendu ça un peu dark, un peu dans le mode un peu la mode actuelle, un peu sombre. Mais ça passait bien. Quoi.
Oui, ça, moi je m'étais dit en voyant justement les Tortues Ninja que j'étais trop vieux pour ces conneries en fait. Justement en allant voir en 2007 le dessin animé en salle.
J'ai trouvé c'était bien.
Je peux quand même dire qu'Alain Resnais est un cinéaste vraiment surfait.
C'est pas des remises en cause.
Le mois de mars a été assez intense au niveau du cinéma asiatique, puisqu'on a eu pas moins de 5 sorties, si l'on compte Reel, sur lequel on a déjà fait un podcast, hein, et donc sur lequel nous n'allons pas revenir aujourd'hui. Il y a eu Les Chiens Errants de Tsai Ming-liang, deux films kazakhs, Leçon d'harmonie et L'étudiant, sur lequel nous allons revenir, et sorti également en salle un film d'animation japonais sur les grands écrans qui s'appelle Patema et le monde inversé. Justin, tu l'as vu et tu en as fait la critique. Est-ce que tu peux nous résumer un peu le pitch du film et ensuite on va pouvoir en débattre donc avec ceux qui l'ont vu.
Alors ça se passe un peu, bah c'est un peu pour ceux qui ont vu l'année dernière le Upside Down, le film SF romantique avec Kirsten Dunst. Donc c'est un peu le même principe, donc c'est un espèce de monde futuriste après une catastrophe écologique et scientifique, donc un monde un peu orwellien, donc où il y a une population qui habite sous terre et une autre à la surface. Et donc qui cohabitent, mais qui s'opposent. Et donc il y a deux jeunes gens, donc une jeune fille qui habite sous terre, qui va aller à la surface, rencontrer un jeune homme aussi qui est mal dans sa peau, qui est à la surface. Et donc ils vont y avoir une histoire d'amour, et puis une espèce de guerre entre les deux mondes, d'opposition entre les deux mondes. Voilà le principe, le point de départ.
Alex, tu l'as vu aussi, qu'en as-tu pensé ?
Absolument, j'ai trouvé ça pas mal. C'est en fait un mix de plein de choses. C'est alors il faut savoir déjà que le film à la base c'était une web série qui avait été diffusée avant que ce soit un long métrage. Et moi j'ai trouvé ça bien. Le seul problème c'est qu'en fait il y a trop de références à tout. En fait, j'ai eu l'impression de voir en un seul film plein d'autres films que j'avais vus ces 15 dernières années, entre La Société Totalitaire qu'on a déjà vu 17 000 fois, entre Les Mondes Inversés, etc. etc. Après, il y a quand même la réalisation qui est plutôt bien faite. L'idée de, à chaque fois de passer d'un monde à l'autre, les transitions sont réussies, je trouve. Et je trouve ça plaisant. Ça, c'est sans doute pas le manga le plus inoubliable que j'ai vu ces derniers temps, mais c'était pas mal.
Est-ce que vous avez le défaut aussi d'un premier film de vouloir justement mettre trop de choses dès le premier essai, Justin ?
Oui, sans doute. Et puis, du coup, il y a des choses qui sont pas claires. On en parlait tout à l'heure. Donc, c'était par exemple la fin où il se retrouve devant des décombres, et puis on sait pas trop si c'est donc des décombres de l'ancien monde ou comment ils sont arrivés là. Si on n'a pas vu la web série, c'est pas forcément clair à chaque fois, vu qu'il a voulu tout mettre, pas eu le temps de tout expliquer. Mais bon, ensuite visuellement
il y a le spoiler qui est apparu il y a 30 secondes.
Il se retrouve devant des décombres, on sait pas ce que c'est. Voilà. Et donc, mais par contre, visuellement, il arrive à bien, parce que c'est vrai que c'est pas novateur sur le principe ou même dans cette opposition à un monde totalitaire, un monde plus pacifiste, mais visuellement, il arrive à réussir vraiment à bien exploiter ça, que ce soit la manière dont, quand il regarde la verticalité, l'horizontalité, qui exprime pas mal la thématique plutôt que par les mots, le fait du héros qui est renfermé sur lui-même. Et qui regarde forcément en l'air pour attraper l'héroïne, et c'est un peu son ouverture intérieure à lui. Donc il y a pas mal de choses qui passent comme ça, assez subtilement, même si le principe n'est pas nouveau, mais visuellement, il réussit quand même à bien exploiter la thématique.
C'est vrai, c'est honnêtement la seule chose qui m'a un peu accroché au film, c'est ce jeu sur les perspectives. horizontale et verticale en fait, de haut et de bas qui s'inverse. Et effectivement, on a vraiment une sensation de vertige par des effets de mise en scène et d'inversion en fait de la perspective au bas. Et c'est vraiment le seul truc qui m'a un peu raccroché, parce que les personnages ont une existence. On l'a déjà vu dans 15 films dans des films depuis 15 ans, Alex. C'est même, il y a aucune écriture de personnage qui n'est pas un stéréotype qui vient d'une série, d'un shonen, d'un manga. Pareil au niveau des décors, des différents mondes qui sont présentés. Enfin, c'est voilà, t'as le monde steampunk, t'as le monde de Jinro, c'est du déjà vu tout le temps, et rien n'est vraiment exploité au niveau de la narration.
Il y a des fans de Ushi dans le réalisateur, donc il y a un côté Jinro, le monde de la surface, les soldats, effectivement, il y a un look, c'est du pur Ushi.
Au niveau de la mise en scène, il y a un truc qui m'a assez surpris, mais je sais pas si ça vient de la copie, j'ai l'impression qu'il y avait un jeu sur les flous, je sais pas si vous l'avez remarqué.
Bah, il y a beaucoup de changements de points en fait, mais voilà. Je pense que c'est voulu parce que le film utilise pas mal d'effets de mise en scène qui sont habituellement utilisés pour les films live. Par exemple, on retrouve aussi pas mal de changements de régime d'image. On voit des images de caméras de surveillance qui sont dégueulasses exprès, alors qu'on ne voit pas forcément ça dans les films d'animation. On retrouve aussi ce côté film flashback un peu flou aussi, avec plein de grains qu'on retrouve aussi dans certains films live et pas forcément dans les films d'animation. Donc je trouve qu'il y a un côté intéressant à ce niveau-là par rapport à ça, ces effets de mise en scène. Bon, après, je rejoins Justine et... Justin et Alex. C'est vrai que le film manque vraiment d'originalité, quoi. On a l'impression d'avoir tout vu ailleurs, et c'est vrai qu'on se retrouve pas forcément dans la cohérence de cet univers quand tout s'inverse, tout se retourne. On sait pas,
à certains moments,
on se retrouve pas forcément à ce niveau-là, quoi. Par rapport au changement de pesanteur, des trucs comme ça.
Pour revenir à ce que tu disais sur les jeux de flou, de mise au point, etc., je trouvais ça intéressant théoriquement. Après, devant le film, je me suis demandé si c'était pas un film en 3D et que j'avais oublié mes lunettes à certains moments. Donc au final, c'est quand même pas très très maîtrisé.
La scène d'ouverture est pas mal, où il y a l'apocalypse, justement, on voit des espèces d'images saturées. Mmh. C'est quand même assez réussi pour mettre dans l'ambiance. Parce qu'après, il n'y a pas trop d'explications sur la catastrophe en elle-même, donc du coup... Ça donne une idée au départ, en tout cas.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Patema ?
Non. Bon, en tout cas, visuellement, ça peut. Je pense qu'il y a du potentiel avec ce réalisateur, parce que même si là, on lui a donné un pitch un peu convenu, mais bon, vu comment il réussit à l'exploiter, au moins par la mise en scène, bon, on peut espérer quelque chose de mieux aussi, avec un meilleur scénario, quoi.
On verra sur la suite. Nous allons maintenant parler d'un réalisateur qui fait plutôt un retour et qui était assez important dans les années 90, qui est Omir Baef, qui revient après quelques années d'absence avec un film qui s'appelle L'étudiant, une adaptation de Crime et châtiment au Kazakhstan. Sidi, tu l'as vu, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle et ce que tu en as pensé?
C'est une adaptation assez fidèle donc, du roman effectivement Crime et châtiment. Donc voilà, c'est l'histoire d'un... Par contre, je suis pas sûr que le personnage ait un nom dans le film. Il y a un moment. Donc voilà.
Raskolnikov en kazakh.
Voilà. Donc il a pas cherché de nom. Mais voilà quoi, c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver à commettre un jour un crime et à ensuite être travaillé par la question du libre arbitre, de la conscience, de la culpabilité. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il est assez fidèle au roman d'origine. Ensuite. On peut dire que le film est un peu à la sauce Omir Baef, c'est-à-dire que c'est une mise en scène, c'est une vraie mise à plat, en fait, son travail. Hein. On peut trouver ça un peu didactique.
Moi, j'ai trouvé ça très plat, justement,
ouais.
dans tous les niveaux, et très lourd aussi.
Je préfère que tu parles avant, d'ailleurs.
j'ai pas grand-chose à dire, en fait. J'ai trouvé, en fait, il y a une critique de l'ultra-capitalisme qui est très très lourde. On retrouve d'ailleurs pas mal de thèmes avec le film dont on va parler ensuite, qui est le rapport homme-animal, chasseur-chassé, et donc à travers ça, cette critique du capitalisme. Mais je trouve qu'il te rappelle ça beaucoup trop dans le film, ça revient trop souvent en fait, comme si tu l'avais oublié 5 minutes après, il te le remet d'un coup, on voit un plan sur une télé qui passe un reportage animalier, c'est très très lourd en fait, je trouve, c'est pas du tout fin quoi.
Tu trouves que c'est un film un peu à message, tu trouves qu'en
permanence on a l'impression qu'il veut, ouais. Il veut te pilonner le cerveau avec son message quoi, pendant tout le film mais...
Moi j'ai au contraire le sentiment que c'était une mise en scène très soustractive, c'est-à-dire que certes, effectivement, on sait un petit peu où il se positionne. Certes, il nous montre des cours où les professeurs décryptent le cheminement du capitalisme avec les élèves qui écoutent, dont notre futur assassin. Effectivement, il y a ce côté-là, et je pense qu'effectivement, Ormi Baef dit un peu quelque chose de son propre...
Je dirais, juste par rapport à la théorie du film, dans les cours, il y a les deux théories qui se posent. Il y a une théorie anticapitaliste qui est démontrée,
un peu
et une théorie capitaliste, on dit donc que c'est le meilleur système du monde. Donc il y a cette dialectique qui est présente dans le film également.
Oui, mais je veux dire, le cours, on a l'opposition de point de vue, il y a juste ça, cet élément-là qui vient de contrer, mais tout le reste du film est basé sur la critique de l'anticapitalisme, c'est quand même au niveau de la mise en scène, de ce qu'il montre.
Moi je trouve que c'est pas un film irrespirable, je trouve qu'il ne bourre pas tellement le mou avec ça. Je trouve que son personnage est intéressant à suivre. Il y a de magnifiques moments où il nous le montre en train de se réveiller avec un état de vraie confusion entre ce qu'il a imaginé, ce qu'il est en train de faire vraiment.
Ça c'est intéressant à la rigueur. Mais pour revenir à ce que je disais, par exemple les personnages de l'actrice et de son petit copain là, enfin c'est d'une autre, enfin c'est pareil, c'est super caricatural, c'est super lourd, il y a aucune finesse quoi dans la façon dont c'est décrit. Après j'avais dit que je trouvais le film assez plat, c'est au niveau de la mise en scène, par exemple la scène de poursuite, un moment quand la jeune fille se fait prendre son sac par des voleurs, c'est pareil, c'est filmé avec une platitude, c'est juste champ contre champ. Il n'y a aucun découpage.
C'est une mise en scène rudimentaire,
mais moi ça me sort du film.
Comme on la retrouve dans certains films africains, il y a un peu ce côté effectivement très obsédé par le cadrage qui est là pour montrer ce qui doit être montré sans fioriture.
Ça casse le rythme.
Je sais pas, je trouve qu'il y a une manière de simplement suivre ce qui se passe point par point, du début à la fin. C'est vrai que c'est très didactique, mais je trouve qu'il y a en même temps une autorité tranquille qui fait que c'est un film qui. Sans être pour autant un grand film, voilà, j'ai clairement préféré ses premiers films qu'il avait fait remarquer, Kairat et Cardiogramma, à la fin des années 90, mais sans être forcément à la hauteur de ce qui a fait le mythe d'Ormi Baef, je trouve que ce film montre qu'il est quand même, malgré qu'il est un peu moins à la cote qu'à l'époque, je trouve qu'il est quand même relativement en forme. Quoi.
Enfin, je l'ai trouvé plus intéressant au niveau de la mise en scène, enfin, cette mise à plat dont tu parles, Sylvie, ça ne m'a pas trop gêné. Ce qui m'a un peu moins passionné, c'est le niveau d'adaptation de Dostoïevski, en fait, où là aussi il opère la même mise à plat. Mais tout ce qui me passionne chez Dostoïevski, et qui justement est un écrivain aussi de la passion, Raskolnikov est un personnage qui parle beaucoup, qui est un personnage de discours, tout ça il le soustrait complètement au personnage. Le personnage de l'étudiant, lui, n'a aucun discours. Enfin, c'est une espèce d'éponge, on ne sait jamais ce qu'il pense. Alors que justement, il y a une voix intérieure perpétuelle dans le roman de Dostoïevski que Ormi Baef a mis complètement de côté. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas retrouvé justement, en tout cas, l'adaptation de Crime et Châtiment que je pouvais attendre.
Mais c'est au niveau de l'adaptation. C'est ça qui est bien aussi, cette espèce d'opacité, c'est propre à son cinéma. Donc moi, le fait que cet étudiant soit très taiseux et n'existe qu'à partir de ses faits, à partir de son libre arbitre entre grosses guillemets, je trouve que ça montre que d'une certaine manière il est parti de la base du roman, il en suit à peu près la trame, mais qu'il a voulu revenir un peu à ses premières amours de ce qui est de suivre un très jeune homme dans sa découverte du monde et sa confrontation à un destin pas forcément enviable. Et voilà, pour lui l'amour n'est jamais simple, il rencontre une fille mais ça va pas forcément aboutir à ce que l'on attend. Certes, il commet l'irréparable, mais en même temps, ça ne va pas dévorer tout le film. Donc, cette question de la culpabilité est là, et en même temps, le personnage qui est loin d'être sympathique, qui est loin d'être attachant, je trouve que ça devient... Je vais employer un terme un peu... Voilà, c'est une figure de cinéma, je trouve, assez fascinante, quoi. Mais voilà, je peux totalement comprendre qu'on reste vraiment à l'extérieur, à se dire, j'arrive pas à entrer dans ce dispositif, parce que c'est vrai qu'Ormi Baef, c'est vraiment un cinéaste... Qui suit son cheminement et qui n'en sort pas et qui est presque un peu égoïste de ce point de vue-là, mais je trouve que c'est bien qu'il puisse encore aujourd'hui faire un film qui lui ressemble, quoi.
La fin est très belle, par contre. J'ai beaucoup aimé le dernier plan, que je ne vais pas dire, donc allez le voir. On va passer au dernier film, qui est aussi un film qui nous vient du Kazakhstan, qui lui est réalisé par un tout jeune cinéaste, Emir Benghazin, qui signe son premier film avec Le son d'harmonie. Nicolas, de quoi parle ce film et présente-t-il les mêmes symptômes didactiques que le film d'Ormi Baef?
C'est l'histoire d'un jeune étudiant aussi qui s'appelle Aslan, qui a 13 ans je crois, et donc qui se trouve dans une école où il subit un peu les malversations des élèves qui font partie un peu d'un gang qui dirige tout, qui rackette les plus jeunes, qui c'est une vraie petite mafia en fait qui se déroule au sein de cette école. Et donc lui un jour se fait humilier pendant une visite médicale, et donc pendant tout le film il va fomenter un espèce de plan pour se venger. Et donc à partir de là, comme tu disais Julien, le réalisateur, dans ta petite critique, tu disais que le réalisateur va mettre en scène le darwinisme, quoi, le darwinisme social. Et donc c'est à partir de là que le film devient très intéressant, parce qu'il y a une vraie précision au niveau de la mise en scène, où on retrouve beaucoup de motifs, d'éléments clés qui sont répétés tout le long du film pour nous signifier l'évolution en fait de cette espèce de mafia sociétaire au sein de cette école. Et donc voilà, je vous laisse parler de la fin du
Julien, je te donne la parole comme Nicolas empruntait tes mots.
Non, mais je suis totalement d'accord sur ce que dit Nicolas à tous les points de vue. Je rebondis juste sur leur dernier argument, justement pour voir le système de mafia qu'on peut avoir dans un système éducatif, qu'on peut voir. Je peux faire un parallèle avec aussi les films asiatiques qui sont en train de sortir. Mmh. Par exemple, Sonong, c'est aussi un petit peu la même chose dans un autre niveau. Bleak Night, c'est à peu près la même pitch. Vas-y.
Sauf que les films coréens, que tu viens de citer, reprennent toutes la même structure, presque le même style de mise en scène, alors que là, c'est vraiment, il n'y a pas de flashback. C'est très linéaire, on va droit au but donc c'est pas tout à fait pareil quand même.
Non, c'est vrai que c'est juste, disons, le fond qui est un petit peu la même chose, la forme est complètement différente. Moi, ce que je retiendrai, c'est surtout cette théorie de Darwin sur grand écran, avec la loi du dominé, du dominant, qui est vraiment en filigrane tout le long du film, qu'on voit dès le début avec cette scène avec l'égorgement du mouton, et qu'on peut revoir
à la fin,
il y a un petit peu un point de vue métaphysique. Moi, je retiens surtout l'acteur principal qui est incroyable, une vraie gueule dès le début, on le voit sur l'affiche. Et juste en regardant l'affiche, on est troublé, on est limite angoissé.
Pourtant, il est assez inexpressif pendant tout le film.
Justement,
il cache beaucoup ses expressions, mais il arrive à avoir cette présence qui est presque terrifiante à certains moments, surtout sur la fin. C'est assez impressionnant.
Disons que c'est un personnage qui intériorise beaucoup et qui à la fin va se venger sur ceux qui l'ont agressé moralement, en tout cas avec cette histoire d'eau, mais également sur son, voilà, sans dire la fin, mais il y a aussi un autre étudiant
qui vient de la ville aussi.
Et qui va aussi subir la même loi de Darwin et qui aussi va donner lieu à une sorte de duo qui va se finir assez tristement pour lui.
Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que le réalisateur s'appuie assez brillamment en fait sur les motifs et sur les éléments clés, par exemple le verre, qui est le sujet de base de l'humiliation du héros, et qui va revenir tout le long du film pour rappeler cette humiliation au héros, et donc en fait pour le remettre un peu sur le chemin un peu de la vengeance, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut se dire à un moment c'est un peu lourd de faire revenir ce verre à chaque fois, et puis à un moment le verre on le voit plus pendant pas mal de temps dans le film, et il revient à un moment clé, c'est au moment où donc le chef de la bande entre guillemets qui s'appelle Bolat, qui intègre la classe d'Aslan, et là le verre revient, et c'est là où c'est vraiment la scène pivot du film qui va vraiment déclencher tout le final, quoi. Et c'est très intéressant à ce niveau-là comment il ressort. Donc il y avait le mouton aussi, le crayon, il y a aussi pas mal de jeux au niveau du cadre, donc les cercles dans le cadre, les cadres dans le cercle.
Faut dire qu'on n'est pas forcément, on est dans un univers ultra réaliste, mais qui n'est pas forcément filmé de manière réaliste plus. Il y a des échappées surréalistes dans le film,
oui, avec la chaise,
par la mise en scène, par le cadrage, par des éléments qui n'ont pas forcément leur place dans le cadre. Et c'est en ça, à mon sens, qu'il y a vraiment la naissance d'un cinéaste qui peut, en tout cas, qui signe un grand film cette année. Et qui peut se révéler un cinéaste majeur pour les années
à venir. Il y a beaucoup, il y a une utilisation très intelligente de l'ellipse et du hors-champ, notamment. En fait, le film avance par coups, quoi. Il y a notamment les meurtres entre guillemets sont, il y a des ellipses à chaque fois.
C'est des blocs narratifs.
C'est des blocs narratifs
qui se répètent.
Ouais, c'est exactement ça.
Il y a une
Vas-y. J'ai pas vu le film, mais vous me donnez très envie. Mais qu'est-ce qui le distingue alors en termes de mise en scène de Hormibaef, finalement? Qu'est-ce qui, Quels sont les écueils qu'il évite, lui, dans sa mise en scène?
Comment dire?
Déjà, je dirais qu'on est dans l'école de Mirbeuf. Hein. Très clairement, on sent formellement quand même une forme d'influence de Mirbeuf. Ouais. Alors après, pour les
autres... Moi, là, je disais tout à l'heure, je trouvais Ermin Baïef assez... Enfin, son film assez plat. Là, je trouve qu'il n'y a aucune platitude, par exemple. Il y a aussi pas mal d'utilisation de la profondeur de champ. Comme je dis, il y a une utilisation du hors-champ très intelligente, que je ne trouve pas forcément chez Omir Baïef, à part pour la scène de meurtre, qui est plutôt bienvenue. Mais je trouve le film beaucoup plus riche, tout simplement, au niveau de la mise en scène. Je trouve qu'il me propose beaucoup plus de choses.
Et moins lourd dans le message.
Peut-être, au début, on peut penser que c'est un peu lourd, mais c'est fait tellement intelligemment au final. C'est tellement, on va dire, il y a un objet qui revient, c'est toujours le bon moment, quoi. Tu dis, putain, mais oui, c'est bien vu, quoi. Ça te rappelle quelque chose à un moment dans le film, puis ça te projette sur ce qui va se passer ensuite. C'est tellement bien vu au niveau de la narration que tu dis, forcément, c'est brillant, et la lourdeur, après, passe au second plan, quoi.
Je suis d'accord au début, j'ai ressenti une certaine lourdeur, puis plus ça avance et plus on est pris dedans, on est complètement happé. Et c'est vrai que tu as une vraie maîtrise cinématographique dans la forme. C'est un film qui était à Berlin l'année dernière, en fait. Hein. Il a eu un prix. C'est une coprode Allemagne aussi, Hollande. Il a eu un très très beau circuit festivalier. Il a eu la première française à Vesoul. Et là, il arrive dans les salles françaises et j'espère qu'il va rencontrer un certain succès. Même si, voilà, le Kazakhstan, c'est un petit peu trop exotique pour la France. Mais en tout cas, ça annonce encore une nouvelle fois que le Kazakhstan se repositionne vraiment sur la plateforme, on va dire, cinématographique mondiale, où on avait toujours Japon, Chine, Corée. Et là, le Kazakhstan revient vraiment en force, que ce soit avec Najima qui a remporté le Grand Prix à Deauville, ou avec Le Son d'Harmonie. Je crois qu'il y a aussi d'autres films kazakhs, mais pas de noms qui me reviennent, mais qui forment, on va dire, une nouvelle vague vraiment.
Najima, c'est... Mais c'est un peu dommage, effectivement, qu'il y ait une très faible couverture médiatique de Le Son d'Harmonie. J'ai pas vu énormément de critiques en parler. Alors, je sais pas si.
Il y a Critica qui l'a beaucoup apprécié, en tout cas.
Le fait qu'il sorte juste après le film de Mirbaev, qui a un nom qui est plus connu. Donc voilà, les critiques ont plus tendance à aller voir.
J'ai vu la critique du Monde, elle fait une très belle critique aussi.
J'ai rien vu sur les cahiers positifs.
Oui,
c'est ça. Ça pourquoi. Non, mais j'ai rien vu de cahiers cinéma et de positifs de toute la semaine, en fait. C'est bizarre.
Nous allons passer à la troisième partie. Donc, en tout cas, allez voir Le Son d'Harmonie. Si vous pouvez, on vous parle des Chiens errants sur le podcast précédent de Tsai Ming-liang, qui aussi est un grand film, et on vous l'a répété pas mal de fois la semaine dernière. Et Reel de Kurosawa, qui est aussi extrêmement intéressant. Il y a eu beaucoup de sorties ce mois-ci en salle. Il y a eu aussi quelques sorties en DVD. La sortie événementielle, c'est Snowpiercer, le transpersonnage, qui n'est pas sorti en mars, mais qui est sorti le 1er avril, donc la semaine dernière, et c'est la raison pour laquelle nous vous en parlons. On a fait un podcast spécial il y a quelques mois, lors de la sortie française, sur Bong Joon-ho, dans lequel on parlait très longuement déjà de Snowpiercer, et à laquelle tu étais convié, Yannick, mais tu n'avais pas pu voir le film qui n'était pas sorti en Belgique à l'époque. On ne t'avait pas forcément donné envie de le voir, tu l'as quand même vu, l'as-tu regretté?
Bon, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai regretté de l'avoir vu, parce que je suis toujours curieux, c'est toujours une expérience de découvrir un film, et puis ça permet de confirmer que Bong Joon-ho est donc un cinéaste sévèrement surévalué, donc non, je ne regrette pas de l'avoir vu, mais après, c'est pas un très bon film.
Alors, je dirais, surévalué, étrangement, c'est quand même son film, on en parlait justement avec Cédric, qui a eu le moins de critiques positives dans la presse. Les gens étaient un peu mitigés sur Snowpiercer. Pour toi, quelles sont les raisons qui a fait que tu n'as pas forcément beaucoup aimé ce film?
Alors, déjà, je vais quand même parler de points positifs, parce que c'est pas non plus un navet fini. Hein. La première partie, je l'ai trouvée intéressante. Il y a quelques chouettes scènes d'action. Je m'attendais à ce que Chris Evans soit vraiment le cachet beau gosse pour faire plaisir à l'occidental, et pas du tout. Il est absolument, je l'ai trouvé très impressionnant dans le film. Donc il y a quand même de bonnes choses. Après, je le trouve quand même long, plutôt incohérent. Les scènes d'action sont finissent par une certaine répétitivité, et puis mais dans des wagons tous plus différents les uns que les autres, donc ça finit par être un peu chiant finalement. Et moi j'ai eu l'impression, comme je le dis dans le tableau des étoiles, de voir un remake de Piège à grande vitesse futuriste, avec une thématique digne des films de propagande de l'ancienne URSS. Bon, le gentil pauvre qui va casser la gueule au méchant bourgeois qui contrôle le monde, bon, c'est gentil, mais enfin, en 2014, voilà, quoi.
Justin, tu l'as vu? Oui, est-ce que tu partages cette analyse comme un film propagande?
Pas du tout, en plus, surtout que le côté, le pauvre qui va casser la gueule c'est remis en cause de plus en plus on avance dans le film, et bon, sans spoiler, mais ça a l'air plus compliqué que ça au final, quoi. Et puis moi qui ne suis pas un grand fan de Bong Joon-ho, donc il y a des aspects de son cinéma où il a réussi, alors, je ne sais pas si c'est le côté blockbuster, le côté où il faut aller à l'essentiel, le côté efficace, où il a réussi à rendre ça beaucoup plus accessible, c'est surtout l'aspect rupture de ton. Moi, j'avais du mal dans ses autres films, par exemple The Host, où on passait du mélodrame le plus appuyé à la grosse comédie potache en 2 minutes, et bon, j'avais du mal à rester dedans, alors que là, l'aspect progression du film, justement, de passer de wagon en wagon, découvrir le vice de manière différente à chaque fois dans chaque wagon qu'il y a chez les nantis, des personnages excessifs, et le fait de cette progression-là de wagon en wagon fait que ça s'insère beaucoup mieux dans la dramaturgie, dans la progression du récit, plutôt que dans ces autres films où ça semblait très décousu. Si on n'adhérait pas à cette touche coréenne, parce que c'est un peu quand même ce cinéma qui est comme ça, mais si on n'adhérait pas, on pouvait décrocher, alors que là, il y a un côté vraiment au service de la narration qui fait que ça passe tout seul, et puis c'est quand même assez fort, il y a des scènes très puissantes, la scène avec les haches, la scène où il porte la torche depuis le fin fond du wagon pour aller... j'en dis pas plus, mais bon, voilà. Il y a quand même pas mal de moments forts, le final aussi. Donc c'est très intense, c'est réussi. Sans avoir lu la BD, d'ailleurs, donc je sais pas ce que ça vaut au niveau de l'adaptation. En tout cas, le film se tient très très bien.
C'est une adaptation qui est assez intéressante, qui s'éloigne énormément, en fait. Elle reprend le pitch de départ, et finalement va vers d'autres. C'est vraiment une actualisation, en fait, d'une idée de la bande dessinée plutôt qu'une adaptation case par case comme on peut les voir. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de ce point de vue là mais bon, c'est vrai que moi j'en avais beaucoup parlé à l'époque, donc vous pouvez vous référer au podcast précédent. Je sais pas si Yannick, tu veux rajouter quelque chose donc sur
Snowpiercer. Si. Alors personnellement, moi j'ai beaucoup plus préféré le début que la fin, que j'ai trouvé complètement foiré, avec le gros côté religieux, et puis la fin, bon, je ne vais pas la révéler bien évidemment, mais pour moi la fin, elle était super prévisible, donc non, vraiment. Par contre, je tiens à préciser que, contrairement à vous qui l'avez vu au cinéma dans de belles conditions, moi j'ai été obligé de le voir dans des conditions absolument dégueulasses, digne d'un pirate d'ancienne génération.
Il a attendu la sortie. Oh là là.
Non, mais je précise que j'ai dû le voir juste parce que pour ça il faut remercier nos amis Wildside qui ont tellement peur des pirates qui m'ont envoyé un vieux lien vers un machin tout moisi avec un timer au milieu de l'écran. Ça aide pas à apprécier quand même le film. Hein.
De toute façon, il est déjà sur les sites illégaux. Donc,
ouais, il est déjà en téléchargement.
Depuis longtemps. Donc,
Et disons-le franchement, les critiques et les journalistes de cinéma sont pas forcément les premiers pirates. Et quand on reçoit un film en DVD, on va pas aller le mettre sur Internet.
Puis, ouais, non, mais c'est ça. Pirates,
quoi, voilà. J'ai rien d'autre à foutre. Dès que je reçois un film de presse, moi, je vais le vendre sur Internet, diffuser. Non, mais... Alors, d'un côté, on a les petits éditeurs qui t'envoient le DVD dans sa jaquette et tout. Tu peux voir l'objet, etc. Et de l'autre, on a Wellside, il t'envoie un lien tout pourri.
Voilà, bon, alors, on a pu comprendre que c'était...
Wellside, si tu nous écoutes.
On t'aime. C'était pas forcément... Tu l'as pas vu forcément dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, oui, on vous. Si vous achetez le DVD, le Blu-ray Wellside, je pense que vous pouvez le voir en tout cas dans de meilleures conditions que les journalistes presse. Voilà, donc il sort le 1er avril, édité par Wellside. Donc vous l'aurez compris. Le deuxième film qu'on a sélectionné, c'est un DTV d'un réalisateur qui est habitué aux sorties salles, qui est Happy Chapoum, mais c'est à cool. Donc en fait, on va dire l'expérience cinématographique Mekong Hotel, qui n'est pas vraiment un long métrage, puisqu'il dure 57 minutes, je crois, donc il passe juste en dessous de la barre du long métrage, est édité en DVD chez Jour de Fête. Il avait été présenté hors compétition à Cannes, ainsi qu'au Festival de Deauville il y a deux ans. Sidi, tu l'as vu, est-ce que tu peux nous... Alors, je vais pas dire résumer le film, parce que ça peut être assez compliqué d'avoir un pitch pour Mekong Hotel, mais nous situer un peu l'ambiance narrative du film et nous dire ce que tu en as pensé.
L'ambiance narrative, c'est une histoire de fantômes, de résurrection, de hantise. C'est une jeune fille qui rencontre un jeune homme dans un hôtel qui est situé autour du fleuve Mekong, enfin au milieu, je crois, au bord du fleuve Mekong. Et voilà, donc je crois comprendre qu'il tombe amoureux, en tout cas il s'apprivoise. Faut dire que chez Veracita Cool, d'un plan à un autre, beaucoup de choses se passent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ellipses. Et on n'est jamais totalement sûr qu'une chose se passe vraiment après ou avant. Enfin voilà, il y a vraiment un travail sur le temps qui est quand même assez fascinant. Grosso modo, on va dire qu'on passe d'une situation à peu près réaliste à une montée progressive de fantastique et d'horrifique même. C'est-à-dire que c'est la première fois, je crois, qu'il y a dans le cinéma d'Happy Chapoum Veracita Cool une représentation assez frontale de l'horreur. C'est-à-dire que vous pouvez me objecter.
Il y a une ambiance fantastique qui était déjà dans Club Bounier par exemple, effectivement, qui était un fantastique qu'on acceptait, voilà, un fantastique presque quotidien qui faisait partie des choses. Alors là, l'horreur est quand même très suggérée. Pour le coup, c'est pas vraiment un film.
Un fantôme féminin en train de manger le foie. Mais c'est quand même des plans qui surgissent comme ça. Alors que c'est un film quand même très apaisé, globalement. On est assez bercé par cette ambiance très languide.
Et on est dans la facticité dans ces scènes. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très bien que. Le sang n'est pas du vrai sang, que les foies sont... voilà, c'est une actrice qui joue, et le film joue aussi là-dessus. Enfin, peut-être que tu ne l'as pas vu comme ça, mais...
Enfin, moi, ça m'a choqué, enfin, c'est vrai que je suis une petite nature, mais... Non, disons que c'est peut-être effectivement ce que ça évoque, effectivement, même si effectivement on sent un peu le côté un peu, entre guillemets, artificiel, cette idée de voir cette femme qu'au départ on voyait parler avec sa fille de manière tout à fait... tranquille, naturel, ordinaire, quelques minutes plus tard, en train de... Je ne spoile rien, hein, puisque c'est quand même un film qui ne joue pas du tout sur la surprise.
On peut tout raconter, vu que la narration est quand même très très secondaire.
C'est ça, donc elle est en train de dévorer le foie de sa fille. Et donc voilà, c'est un film assez effrayant. C'est ce mélange de tranquillité... Ah, je crois que... Ce mélange d'apaisement, et on est vraiment bercé par la musique aussi d'un guitariste ami, je crois, de Veracita Cool, qu'on voit au tout début du film en train d'essayer de retrouver l'accord d'une mélodie qu'il a composée. Et cette mélodie va ensuite tenir pendant tout le film, quoi. Ça sera un peu la ligne mélodique du film qu'on entendra en arrière-fond. C'est très compliqué de parler de ce film de manière classique, disons. C'est vraiment une expérience sensorielle.
On a vraiment l'impression que le film aussi se fait au fur et à mesure, comme la musique se fait au fur et à mesure. Et comme si on voit des acteurs qui répètent, puis après ça devient un peu plus surréaliste. Les scènes se créent au fur et à mesure avec une base très réaliste pour aller vers le surréalisme, quoi. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que c'est un travail intéressant.
C'est ça, c'est... Mais voilà... Peut-être que j'ai été d'autant plus troublé par les scènes, on va dire, d'horreur, qu'elles ne tranchent pas vraiment avec l'ambiance réaliste. C'est-à-dire que voilà, il y a presque une équivalence entre l'apaisement et l'anomalie qui fait que c'est un film vraiment troublant. Et je voulais en venir justement au fait que Happy Chapoum Veracita Cool est un cinéaste effectivement qui mérite tous les honneurs qu'on lui a fait depuis à peu près 10 ans. Depuis la révélation de Blissful Years en 2002, qui a vraiment été une vraie trouvaille, une vraie découverte. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal à y adhérer totalement. C'est-à-dire que j'ai jamais été son premier fan. Beaucoup ont dit que qu'il avait un petit peu révolutionné la narration au cinéma, des choses comme ça. Et tout en reconnaissant les audaces de ses films, aussi bien dans Club Bulmy et Tropical Malady, cette espèce d'apaisement, c'est-à-dire cette espèce de pacifisme absolu, le fait que les fantômes sont parmi nous, mais qu'on va dîner avec eux de manière très tranquille, qui fait que finalement il n'y a jamais vraiment de rebond dans son cinéma, il y a une forme de réconciliation universelle et absolue, qui fait que j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un côté un peu pépère, qui sans m'ennuyer vraiment, faisait que je sortais de ces films sans en penser grand-chose, quoi. J'avais défendu à l'époque Oncle Bunmi, parce que c'est quand même un film, une expérience tout à fait singulière, mais en même temps, je sais que c'est un cinéma dont la tranquillité me semblait toujours un peu excessive. J'avais besoin de ressentir quelque chose de vraiment troublant et déstabilisant. Et pour une fois, j'ai été déstabilisé vraiment face à un film d'Oncle Bunmi, d'Apichatpong Verazeta Cool, de par justement ce que j'ai dit, cette manière dont dans ce tout petit film, Mekong Hotel, l'arrivée de l'anomalie tranchait avec un apaisement global. Je trouve que pour une fois, il y a une petite salissure qui fait du bien, quoi, qui me donne envie d'en voir un peu plus. J'aimerais qu'il lâche un peu plus souvent la bête, quoi. Dans la deuxième partie de Tropical Malady, par exemple, il y a un peu de ça, effectivement, cette histoire amoureuse sur fond de dévoration. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort. Mais en même temps, je trouvais qu'il y avait quand même un côté un petit peu trop, un peu languide, quoi, qui avait du mal à me saisir totalement.
C'est marrant parce que c'est aussi ce qui me séduit dans son cinéma, cette forme de tranquillité que je trouve très forte. Et autant je l'ai complètement retrouvé dans Mekong Hotel, un peu en sourdine justement. Enfin, moi j'aime beaucoup ses films précédents, celui-ci je trouve que c'est plus un exercice de style un peu plus mineur, où il fait ses gammes. Et en fait, le seul moment du film où j'ai vraiment été touché, c'est quand on retrouve cette espèce de tristesse mélodramatique, mais qui n'est pas appuyée, lors de l'avant-dernière dernière scène, quand finalement il y a un dialogue entre la mère et la fille, et le fantôme explique la tristesse qu'elle a à être enfermée dans un même endroit, où les deux personnages sont au même endroit, mais n'arrivent plus à communiquer, mais essayent d'être encore ensemble et d'être là l'un pour l'autre. Donc vraiment, il y a ce plan que j'ai trouvé très beau justement et dans lequel j'ai retrouvé cette tristesse-là. Dans l'ensemble du film, j'ai regardé alors vraiment sans déplaisir, en me laissant vraiment porter par ce petit air de guitare qui nous guide, en trouvant ça théoriquement assez intéressant de faire un film qui mélange en fait des prises de vue vraiment sur le vif d'acteurs qui sont en train de répéter, de discuter comme ça. Enfin, il y a un côté très documentaire et un côté beaucoup plus fictionnel et scénarisé avec cette histoire fantastique. Avec ces deux régimes d'images qui sont mis sur le même plan, donc on se perd complètement. Au bout d'un moment, on ne sait pas si les acteurs répètent, s'ils sont leurs personnages, s'ils sont eux qui sont en train de discuter. Donc ça m'a intéressé théoriquement. Après, j'ai quand même tendance à être beaucoup moins dedans que dans ces autres films et à trouver que c'est un petit exercice qui... c'est intéressant de le voir en DVD, mais je comprends qu'il ne soit pas sorti en salle, par exemple. Ou en tout cas, je suis moins... Je suis beaucoup moins entré dedans que toi, j'ai l'impression.
Et qu'est-ce que tu aimes tellement dans son cinéma, à la base, donc c'est... Enfin, qu'est-ce qu'il apporte de si radical dans le cinéma depuis 10 ans, Zeta Cool?
Alors là, j'ai envie de dire, il faudrait faire un podcast sur et je pense qu'on le fera, on le fera lors de son prochain film, parce que sinon on peut être parti pour très longtemps. Je sais pas si Nicolas, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur.
Non, je te rejoins assez en fait. Tu avais dit à Deauville que c'était une espèce de petite tisane apaisante, un peu mineure.
Il faut dire qu'à Deauville, je m'étais complètement endormi pendant toute la projection. Tu l'as revu là en DVD.
Oui, c'est une très
bonne tisane qui endort.
Mais moi, c'est pas une tisane forcément qui m'endort, c'est une tisane qui m'apaise. Enfin, c'est-à-dire que je l'avais un peu oublié au bout de deux semaines, quoi. Mais sur le moment, j'avais passé un moment agréable, quoi. C'était bien au milieu d'un festival, en plus d'avoir un petit film comme ça d'une heure.
Mais je crois que
ça repose les méninges, quoi.
C'est cette espèce de distanciation qui me plaît, en fait. C'est-à-dire que pour une fois, il ne nous prend pas vraiment la main, il nous laisse un petit peu, comme ça, nous débrouiller avec ce qu'il nous offre. Là où j'avais le sentiment qu'auparavant, il était toujours en train de nous susurrer à l'oreille, ne t'inquiète pas, je suis là. Et je crois que j'aime pas trop ça, en fait, qu'un cinéaste me rassure en permanence.
Ces films sont quand même très libres d'interprétation. Enfin, il y a l'ellipse dont tu parles d'une scène à l'autre et de ne pas savoir forcément ce qui s'est passé entre les scènes, tu le retrouves dans pratiquement tous ces films. Cette césure au milieu où finalement les personnages ou les acteurs incarnent un autre personnage, c'est aussi quelque chose qui peut être assez surprenant au niveau de la, au niveau de la narration.
Ça m'a surpris dans Blissfully Yours, ouais, beaucoup moins après, où j'ai eu le sentiment qu'il se reposait un petit peu sur son acquis. Il y avait quelque chose d'un peu systémique qui faisait que, tout en reconnaissant le coup de force et l'audace effectivement qu'il y avait à mettre un générique en milieu de film, à changer radicalement de tonalité, de passer du réel total au conte dans un film, ça m'a toujours vraiment passionné. Et même dans le Club Ennemi, quoi, quand je vois l'homme, le fantôme sous forme de Chewbacca apparaître avec ses yeux rouges et qui va s'asseoir, il y a vraiment quelque chose de fascinant et tu partages l'ahurissement des personnages. Mais passé cet instant, effectivement, je reviens sur le terme d'anomalie, mais c'est ça. Je trouve que l'anomalie est immédiatement acceptée et qu'il ne nous reste plus à nous, spectateurs, qu'à nous laisser guider, nous laisser... Voilà, quoi, c'est une forme de fleuve tranquille.
Mais c'est pas une anomalie, parce que justement, cette présence fantastique, elle est acceptée par le personnage avant que nous on l'accepte. Et donc, quand elle arrive, finalement, on est avec les personnages et on se dit, bah, c'est tout normal que effectivement ce singe fantôme vienne ici s'asseoir et vienne manger avec nous, quoi.
Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de troubles. Justement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où les personnages donc acceptent d'accueillir ce personnage, acceptent tout de suite qu'il soit la réincarnation du fils perdu, j'ai plus rien à faire. Moi, c'est ça, j'ai du mal, j'ai besoin d'avoir à me poser encore des questions. Et face au cinéma de Vera Zetacool, c'est rarissime que je continue à me poser des questions, tellement j'ai l'impression que toutes les réponses sont déjà données, qu'avec lui, finalement, il n'y a pas tellement de raisons de... Il n'y a pas tellement d'insécurité et voilà, je crois que c'est un peu une limite de spectateur.
Donc c'est une insécurité que tu as trouvée tout de même.
Que j'ai trouvé dans le dernier, justement le fait que ça soit un peu conceptuel et que ça se limite à ça, un accord de guitare, une sorte de déconstruction, de confusion, ça m'a apporté une absence de réponse qui m'a fait un peu plus travailler et j'aimerais qu'il aille un peu plus là-dessus, j'aimerais qu'il soit un peu moins rond, j'aimerais que son cinéma soit un peu moins rond, oui.
Alors, tout à l'heure, il y a Yannick qui a dit un peu ce qu'il pensait de Wildside. Moi, je vais un peu faire de même avec Jour de Fête, qui tout de même... Alors, peut-être qu'on peut en discuter aussi, parce que ça peut aller dans ce sens de laisser le spectateur complètement libre de penser un peu ce qu'il veut du film. Mais j'ai l'impression que tout de même, Mec Mon Cocktail est un film qui est assez conceptuel, qui a une histoire assez précise, qui s'inscrit dans une cinématographie voilà, qui est assez complexe. Et Jour de Fête qui édite donc le film nous livre le film qui dure un peu moins d'une heure tel quel, sans aucun bonus, sans aucune, ne serait-ce qu'une présentation, un documentaire accompagné d'autres courts métrages. Et je trouve que justement c'est un peu voilà, c'est un petit peu léger d'offrir le film tel quel sans aucun accompagnement en DVD au spectateur comme ça sans boussole. D'autant que sur la jaquette c'est bien indiqué par le réalisateur donc le Bounny. Et j'ai un peu peur que donc Le Bounny, qui est quand même un film beaucoup plus facile d'accès que Mekong Hotel, faut peut-être le dire, que les spectateurs qui ont vu La Palme d'Or peuvent être attirés par ce nom et voilà, peuvent regarder le film en passant complètement à côté et sans du tout comprendre de quoi il s'agit. Donc je pense qu'en tout cas avec ce film, l'éditeur aurait pu faire un petit travail d'accompagnement. Alors présenter d'autres courts-métrages d'Apichuk Mwara Setakul, qui en a fait d'autres ne sont pas encore disponibles, qui a fait des vidéos donc artistiques qu'on ne trouve pas encore en DVD. Donc je pense que voilà, en tout cas ça aurait mérité une édition un peu plus complète du film plutôt que de le laisser comme ça vierge de tout supplément.
C'est vrai qu'on est vraiment proche du Weshan School du Mwara Setakul effectivement, qui fait des installations là. On est vraiment assez proche de ce travail-là, plutôt effectivement que du cinéaste aspirant un peu à la fiction, même si chez lui la fiction reste encore en filigrane, quoi. Enfin, ça a toujours été. Mais je suis assez d'accord effectivement que ça aurait mérité peut-être un peu plus.
Peut-être un livret.
Voilà.
Un livret critique à côté et puis d'autres films dans un coffret. Mais bon. En tout cas, vous pouvez le voir maintenant que vous nous avez entendu parler du film et que vous comprenez parfaitement de quoi il s'agit. On va passer au dernier film de la sélection DVD qui n'a absolument rien à voir ni avec Snowpiercer ni avec Mekong Hotel, qui est ton coup de cœur, Yannick. Et c'est un film de Takashi Miike que l'on redécouvre en DVD, en coffret de DVD, grâce à Metropolitan.
Voilà, en DVD et Blu-ray, donc c'est La Grande Guerre des Yokai, qui date en fait de 2005. Donc ça fait vachement longtemps qu'on l'attend. Moi, je me rappelle en avoir entendu parler à l'époque dans Mad Movie. Et du coup, c'est un film qui remonte avant qu'il soit présenté à Cannes, qu'il nous fasse des remakes de grands classiques, etc. C'est un film, là pour le coup, à la base, un film pour enfants. Donc on a vraiment les éléments du film pour enfants, mais bon, je dirais du film pour enfants japonais, quoi. Hein. Faut pas oublier, par exemple, Pompoko, qui a beau être un dessin animé pour les enfants, qui est quand même un peu spécial. Donc là aussi, on a un petit côté un peu violent, un peu sanglant par moment. On a les éléments du film pour enfants avec le héros qui est un enfant qui va devoir partir dans la forêt pour retrouver une épée magique, qui va rencontrer plein de yokai, donc toutes les créatures de la mythologie japonaise. Et qui va devoir lutter contre un espèce de méchant démon qui en fait emprisonne les yokai en les mélangeant avec des objets qui sont les rebuts jetés par l'humanité pour en faire des espèces de méca tout bizarres qui attaquent les humains. Et on a des effets spéciaux qui sont par moments, c'est vrai, assez ratés, mais on a une générosité, une folie de chaque séquence permet de passer un excellent moment. Alors bien sûr, c'est pas du grand cinéma, mais c'est un cinéma généreux comme je l'aime et comme je le conseille, qui en plus sorti en Blu-ray d'une qualité assez exceptionnelle avec une image magnifique. Donc vraiment à voir, peut-être pas à voir pour les enfants parce que c'est quand même du Takashi Miike, mais à découvrir.
Okay. Et sinon, juste pour dire, ça sortait dans le cadre aussi de l'original, parce que c'est un remake en fait d'un classique japonais du fantastique des années 60, et HK Video qui le sortent en solo, mais qui le mettent aussi dans le coffret avec la trilogie des yokai qui sort chez HK, donc avec trois autres films des années 60, et donc là, c'est le remake en fait du premier film de la série en fait.
Ok. Voilà. Et pour dire que d'ailleurs depuis également Takashi Miike a fait d'autres films pour enfants dont Ninja Kids il me semble. c'est pas génial.
Je me rappelle de l'horrible Yatterman.
Ouais, Yatterman. Et c'est vrai que c'est à chaque fois que j'ai pas vu son remake de la guerre des yokai, mais quand il fait des films pour enfants on reste à la limite d'une certaine forme. Enfin il y a quand même une sexualité qui est explicite, il y a du gore, enfin ça reste effectivement très déviant pour sa conception de film.
Oui, mais les Japonais l'abordent pas forcément de la même manière la déviance. Ouais. Je citais justement Pompoko avec les tanuki et leurs testicules complètement apparentes tout le long du film. eux, ça les choque pas. C'est sûr que nous, on est un peu on montre pas trop des testicules aux enfants, quoi.
Je crois que c'était un bon mot de conclusion pour la partie DVD. Nous allons donc maintenant parler des événements qui vont arriver au mois d'avril. Tout d'abord, Yannick, je me tourne vers toi qui est en Belgique, puisqu'il y a le BIF qui arrive à grands pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle édition du festival?
Oui, une nouvelle édition particulièrement intéressante. Alors, le BIF, c'est toujours une très grosse programmation avec énormément de films dans des thématiques disons qu'on ne trouve jamais de thématiques vraiment définies. Alors, c'est censé être un festival fantastique, mais ils offrent un prix polar, il y a énormément de choses. On retrouve en général le meilleur comme le pire s'y côtoie, mais cette année il y a quand même pas mal de films très intéressants. Alors niveau asiatique, on a évidemment The Raid 2 que tout le monde attend bien évidemment. On va aussi avoir deux épisodes de la nouvelle série de Ghost in the Shell qui sont projetés. L'après-quel de Young Detective de Tsuark. On aura aussi un film avec Tony Jaa qui arrive.
Il y a
Ugly qui continue à faire le tour des festivals, de même que le Mikie Takashi Shield of Straw. Enfin, bref, pas mal de films. Bon, la qualité, c'est voilà, chacun trouve ce qu'il veut, mais quand même des gros films, des grosses attentes.
On trouvera ta couverture cette semaine et la semaine prochaine sur le site. On attend juste avant, il y a le festival de Beaune qui arrive. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, Nicolas ? Parce que tu y seras la semaine prochaine.
Donc. Oui, exactement. Il y aura The Raid 2, donc c'est un peu l'événement principal.
Voilà, merci.
Bon, en fait, j'y vais beaucoup pour ça, mais il y a aussi le dernier gagnant à Berlin, Black Hole. Qui m'intéresse énormément. Il y a The Stone, qui est un film coréen. Et il y a aussi, surtout, le nouveau Matsumoto, R100. Voilà, donc avec son pitch complètement génial.
Pour ceux qui restent à Paris, la Cinémathèque offre une rétrospective consacrée à Ozu. Est-ce que, Julien, tu peux nous en dire deux mots ?
Deux mots, parce que... Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Ça revient sur les principales œuvres de ce maître japonais. Il y a aussi qui vont ensuite faire suivre en fait des sorties ciné de versions resterées de quelques-uns de ses films. Alors, ils sont... De toute façon, il n'y a rien à dire sur Ozu, c'est une rétrospective. Du coup, ça fait état à deux sorties françaises. Je crois qu'il y a Bonjour et l'autre. Pas de démon, pas plus. Ça me dit rien. Je pense que c'est le même jour en plus qu'ils sortent. C'est en début mai, mais.
Non, je réfléchis pas 10 minutes quand même.
Ok. Bon. Donc il y a une rétrospective vachement intéressante et donc. Allez-y, courez-y parce qu'il n'y en aura pas non plus des masses dans la décennie qui va venir là.
Et Carlotta, merci Alex, sort aussi un coffret DVD, si tu veux nous en dire un mot.
Oui, absolument. Alors, il y a un coffret, il y a un joli coffret qui sort. Pour l'avoir vu, c'est un coffret qui est assez intéressant, où dedans, il y a un nombre assez important de DVD. Il y en a 13 ou 14, je crois.
Un 13. 13 est un documentaire.
Voilà. Ouais. Donc ça permet vraiment d'avoir un. Pour tous ceux qui ne pourraient pas aller voir la rétrospective, de découvrir ou de redécouvrir ce merveilleux cinéaste. D'autant plus merveilleux qu'on est partenaire de la sortie. Donc
cinéaste et partenaire. Bah, je pense qu'on reparlera lors du bilan du mois d'avril, justement, pas mal de Ozu. On parlera aussi.
Juste, alors il faut quand même noter que c'est des ressorties. En fait, les films sont quand même retravaillés à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que la qualité des films sont vraiment. Enfin, j'en ai vu quelques-uns et.
C'est une nouvelle copie.
T'as vraiment. C'est pas juste ressortir le film pour les sorties cinéma. Le film a été retravaillé. Donc, ça permet aussi pour ceux qui ont déjà vu le film de redécouvrir un petit peu avec des nouvelles couleurs, avec des. Enfin, tout ça en version 2014.
Et les copies de la Cinémathèque seront les mêmes que celles de Carlotta ?
Alors, ça par contre, pour la rétrospective, je ne sais pas. Pour ceux qui sortent au cinéma, c'est sûr. Je ne sais pas après. Je suppose qu'ils ont dû travailler ensemble, mais ça faudrait... je sais pas.
Alors, je te laisse la parole, hein, puisqu'il y a trois films asiatiques qui sortent au mois d'avril. Le premier, c'est 47 Ronin, que tu as vu.
Absolument.
Juste en un mot, tu peux nous dire ce que t'en as pensé, et si on peut aller le voir.
Alors, c'est en 3D, ça a coûté 172 millions de dollars, et ça, c'est votre box-office.
Aux États-Unis.
Ouais. Dans le monde, en fait, à part en France. Ouais, parce qu'en fait, il a... ils ont commencé à vouloir faire une avant-première au Japon pour marquer bien que c'était japonais et tout et tout. Sauf que ça n'a pas du tout marché. C'était une vraie catastrophe au niveau du box-office. Et c'est un petit peu dommage parce que, bon, même si le film n'est pas parfait, très franchement, ça ne méritait pas de se vautrer autant. Donc effectivement, ça a coûté 172 millions de dollars pour diverses raisons de post-production, etc., etc. Et par contre, c'est un beau film. Moi, je trouvais ça intéressant. La 3D ne sert pas à grand chose. L'histoire, il enchaîne entre c'est un fait historique, mais c'est n'importe quoi parce qu'il y a des dragons et des sorcières.
Bah, il y a des légendes qui vont avec.
C'est ça. Donc, c'est un film intéressant à aller voir. Voilà, c'est un bon film d'action.
T'avais un mot à rajouter
J'ai pas grand chose d'autre à dire. C'est pas honteux, en fait. Ouais, c'est plutôt bien foutu. Alors que les premières bandes annonces m'avaient fait un peu peur. Je m'attendais à pire. Non, c'est plutôt bien foutu. Bon, je vais pas dire qu'on voit les 172 millions à l'écran, mais c'est quand même pas trop mal foutu, surtout sur le final. On s'ennuie pas. Keanu Reeves, bon, ça. Keanu Reeves, quoi. une expression pendant tout le film, bon, c'est pas trop grave. Et ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est pas honteux, quoi. Je m'attendais vraiment à un gros navet et je trouve qu'il y a un respect sincère pour les traditions et pour les légendes japonaises. Donc voilà.
Ah, comme ça, on tease un peu sur le prochain podcast. Donc on reviendra parce que tout le monde aura vu les 47 Ronins, donc on pourra en parler. On pourra également parler de Sun Yung, de Shin Su-Wand. Et des trois sœurs de Yunnan, de Wong Bing, qui sort en salle à la fin du mois d'avril. On va terminer par un petit tour de table. Si vous avez un conseil cinéma hors Asie pour les lecteurs. Julien.
Moi, je conseillerais un film qui est sorti, je crois, il y a 2 semaines,
et qui s'appelle Heure de Spike Jonze, que j'ai beaucoup aimé, avec Scarlett Johansson en voix de narration, mais c'est pas en fait cet élément-là qui m'a le plus agréablement surpris. C'est en fait sa deuxième partie qui revient en fait sur un petit peu le côté métaphysique, où on a en fait l'évocation d'un ancien philosophe américain des années 60, Alan Watts, que pas grand monde connaît, mais que tout le monde devrait connaître. Et en fait, qui justement donne un degré totalement métaphysique au film, alors qu'au début c'était plus une relation amoureuse dans sa première partie, qui était intéressante, non, mais sans être exceptionnelle, avec en filigrane tout ce qui est future technologie, bon, petite critique de l'individualisme, dû au fait que voilà, les futures technologies empêchent en fait la communication directe. Donc c'est assez intéressant, mais c'est pas non plus novateur. C'est vraiment la deuxième partie pour moi qui m'a le plus marqué. La bande originale est vraiment superbe. Il y a une partie qui a été faite par Arcade Fire, par exemple, que j'apprécie beaucoup. Mmh. Et donc, je conseille.
Composition originale.
Je crois que ça dure un petit peu plus de 2 heures. C'est vraiment. Moi, je me suis pas du tout ennuyé. C'est vraiment une bonne surprise et c'est peut-être l'un de mes meilleurs films que j'ai vu pour l'instant pour cette année 2014.
Yannick, je crois que tu as un conseil cinéma ce mois-ci.
Alors ce mois-ci, oui, il y a un film qui m'a particulièrement marqué, par contre je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, c'est L'étrange couleur des larmes de ton corps, coproduction franco-belge.
Il y a des cris de détestation sur la
Oui, mais je m'en fous, voilà, c'est un pur chef-d'œuvre. Ce film est d'une exigence rare, on sort épuisé de la salle, mais c'est une véritable leçon de cinéma. Chaque plan, chaque image est absolument magnifique, et je crois que j'ai jamais vu une telle sensualité à travers le langage cinématographique. Je veux dire, la caméra caresse les visages, les corps, c'est un mélange de sensualité et de violence, c'est vraiment un chef-d'œuvre.
C'est un film pour les sadomaso, quoi.
J'ai perdu une amie à cause de ce film. Je l'ai invité à le voir avec moi. Voilà. Non, mais bon, ouais.
Okay. Et t'as pas trop aimé, donc si vite.
Ah, pour moi, Yannick, vraiment, je t'adore, mais ça représente tout ce que je refuse au cinéma. C'est-à-dire que c'est pour moi du maniérisme, mais totalement.
Gratuit,
je veux dire. Gratuit, oui, c'est ça. Ce travail sur le son, heureusement, on était vraiment à l'arrière de la salle parce que je plains vraiment. Ceux qui étaient devant, c'est... Ah oui, t'étais au premier rang. Voilà, quoi, c'est... Déjà, leur premier film amer, pour moi, c'était vraiment une pub étirée assez insupportable. Et là, ils surenchérissent. Et en plus, ils sont encouragés parce qu'ils ont de très bonnes critiques. Mmh. Je le répète, paix sur la terre, je respecte la vie de tout le monde. Mais pour moi, c'était un supplice. Et comme je dis, mon ami m'en a voulu de l'avoir invité à aller voir ce film. Et voilà, quoi, on se parle plus depuis. Quoi.
Juste voilà. Pour être un peu plus mesuré, c'est pas forcément. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un travail derrière, ça, qu'ils ont vraiment un univers à eux, bien à eux. Et il faut quand même saluer le truc, sauf que c'est ce que j'appelle un peu un film autiste. C'est-à-dire que c'est vraiment un film fait par eux pour eux, quoi. Et pour peut-être un public très, ouais, très minoritaire. Mais c'est sûr que ça plaira. Enfin, ça
mais moi, je pense qu'ils n'ont pas d'univers. Bah,
ouais,
je pense qu'ils n'ont pas de style.
Si c'était un film autiste fait pour eux, il n'y aurait pas autant de gens et autant de critiques dithyrambiques.
Mais il n'y en a pas tant que ça, hein, je m'attendais à.
Je suis bien d'accord que c'est un univers terriblement exigeant et je comprends totalement qu'on puisse détester. C'est vraiment très difficile de rentrer dans cet univers-là, mais on ne peut pas dire qu'ils l'ont fait que pour eux, puisque, je veux dire, non. Il y a trop de personnes qui l'ont apprécié pour que ce soit possible.
Ah, moi j'ai aimé le début au début. Enfin, moi ça aurait fait un très bon cours en fait, mais après j'ai trouvé une certaine redondance.
Non, mais là c'est juste la séquence où il va. Juste la séquence où il va à peu près 15-20 fois à sa sonnette pour ouvrir la porte.
Ah, oui. Ah,
vraiment, je veux bien que la répétition soit un effet cinématographique à la mode, mais faut pas déconner non plus, quoi. Voilà.
Et surtout, moi, je pense qu'ils n'ont pas d'univers. Moi, je pense que c'est du recyclage totalement stérile, quoi.
Donc, c'est très référentiel de Gallo, quoi. C'est
ça. Voilà.
Et quand je pense que je suis allé voir le film parce que j'ai lu la critique de Yannick.
En plus, c'est vrai.
Comme quoi, la critique a de l'influence tout de même. Donc,
allez voir A Touch of Sin plutôt.
Il sort en DVD bientôt ou il est déjà sorti?
Il va bientôt sortir.
Alex, as-tu un film hors Asie à conseiller ce mois-ci?
Alors, dernièrement, j'ai vu deux films. J'ai vu Lego Movie. Voilà. Et comme le dit si bien le film, c'est super génial. Voilà, tout est super génial. Non, c'est pas mal. En fait, j'ai autour de moi des gens qui, enfin dans mon entourage, qui n'étaient pas vraiment fans d'aller voir un dessin animé. En fait, c'est un film qui s'adresse aussi bien aux grands qu'aux petits, avec une petite surprise sympathique à la fin du film. Et je trouve ça agréable. Voilà.
Ça, je suis. Moi, c'est surtout réalisé par deux génies, donc. À partir de là, moi j'étais presque conquis d'avance, parce que c'est eux qui ont fait 21 Jump Street et qui vont bientôt faire le deuxième opus, qui était une des meilleures comédies de ces 5 dernières années, et Tempête Boulet Géante, qui est un des meilleurs films d'animation aussi de ces dernières années. Et donc j'avais aucun a priori.
L'épisode de District 99, hein, qui est plutôt
aussi assez drôle en son genre. Et donc, ouais, c'est vraiment un univers d'une inventivité folle, quoi. Ils ont vraiment pris ce qu'est la base de Lego, ils l'ont amené dans leur univers, et c'est vraiment génial pour le coup.
Mais en fait, je trouve le plus impressionnant dans le film, justement, c'est un petit peu toute la façon d'amener les personnages à construire des choses. C'est-à-dire que les petits personnages, les petits Lego qui sont capables de construire des vaisseaux à partir de rien du tout, enfin, des voitures, des avions, des trucs, sont appelés les constructeurs, ouais, ou un truc comme ça.
Les bâtisseurs.
Et en fait, il y a toute une mise en scène avec. On reconnaît en fait, on retrouve le numéro des pièces de chaque brique de Lego à un certain numéro de série. Et donc, on retrouve ça. C'est vachement bien fait. Enfin, vraiment, j'ai été très agréablement surpris. Je m'attendais juste à un dessin animé standard, on va dire. Et en fait, très bonne surprise. Donc, allez le voir.
C'est complètement bien intégré à la trame du film, au rebondissement, le côté transformation, côté reconstruire des décors. Ça trouve son sens justement avec le final. Il y a une petite surprise, petit rebondissement final qui explique un peu cet aspect-là.
Non, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année pour l'instant. Ouais. The Lego Movie. Donc allez le voir si je joue encore. Justin, est-ce que tu as un conseil hors Asie
Alors, j'allais dire heure, mais j'ai un peu coupé l'âme sous le pied. Alors, sinon, il y aurait le dernier Paul Schrader, The Canyons, alors, qui est quand même assez particulier aussi. C'est, donc, ça mélange un peu le côté attraction-répulsion pour le sexe de Schrader avec le côté un peu description de l'hédonisme, du vide un peu des nantis, donc sur un scénario de Bret Easton Ellis. Et donc, bon, c'est assez radical aussi, parce que si on rentre pas dedans, ça peut sembler complètement creux, ce que je peux comprendre. Hein. Mais bon, il y a un côté où ils vont montrer vraiment le vide du clinquant californien, hollywoodien. Et en plus, ils utilisent des icônes un peu de ce cadre-là. Donc, il y a Lindsay Lohan, qu'on connaît bien pour ses frasques, et donc qui joue presque un rôle autobiographique de pseudo-star un peu ravagé. Puis on voit un peu l'outrage des excès un peu sur son visage, elle est un peu refaite et tout. Puis il y a James Dean qui est un acteur porno, oui. Donc finalement il y a quand même pas mal de charisme, je connaissais pas ses films.
Non, c'est vrai qu'il joue pas
il a
trop
vraiment une présence quand même assez magnétique, assez inquiétante.
Elle est vraiment horrible, quoi. Enfin, son personnage est...
Il est odieux, manipulateur. Et donc voilà, le film est... Bon, faut rentrer dedans, c'est assez particulier. Mais bon, si on aime déjà les univers de Bret Easton Ellis... Ça correspond à peu près à ce côté un peu clinquant, un peu bling-bling, mais un peu sordide aussi. Donc, bon, c'est particulier, mais si on apprécie les deux auteurs, on peut adhérer.
Sidney, as-tu un film à nous
conseiller ? Déjà, je voudrais dire que je suis ravi de savoir que James Dean refait des films après une cinquantaine d'années.
Avec deux yeux.
Voilà, là, ça a fait ma journée. Moi, je vais... un film, j'espère qu'il est encore en salle, ça s'appelle Les bruits de récif, du Brésilien, Kleber Mendonça Filho.
C'est
muy bien de la historia. C'est un film, comment définir ça? C'est vraiment un film d'atmosphère, qui nous demande vraiment de nous laisser embarquer par le travail du son, le travail vraiment sur le bruit, comment situer ça? C'est un quartier résidentiel de Recife, justement, au Brésil, et il suit une dizaine de personnages, de voisins, dans leur quotidien. On a toujours l'impression, de par la mise en scène, un jeu sur le flou, sur le net, sur le zoom, que quelque chose de catastrophique pourrait se passer. Et il n'arrête pas de différer cette catastrophe, si bien qu'on n'est jamais certain qu'elle arrivera ou pas. Il y a un travail de saturation permanente au niveau audiovisuel qui fait qu'on est vraiment saisi au sens pur du terme. Quoi.
Et puis pour le coup, on retrouve aussi quelques thèmes qu'on retrouvait dans, par exemple, dans Leçon d'harmonie ou L'étudiant, avec cette relation dominant-dominé, sauf que là c'est beaucoup plus doux, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus diffus, donc c'est encore plus, presque encore plus violent. C'est une violence sourde qui n'éclate pas, qui repousse tout le temps le moment où ça va éclater jusqu'au final, quoi. Et c'est vraiment impressionnant au niveau de la mise en scène, de la spatialisation sonore et tout. C'est un grand metteur en scène.
C'est ça, il y a une espèce de tranquillité, c'est vraiment troublante, quoi. Ouais.
Nicolas, est-ce que ce serait le film que tu conseillerais ou est-ce que tu en as un autre?
Ils ont déjà, il y avait Lego, il y avait Les bruits de récif. R à une moindre échelle parce que j'étais pas complètement convaincu, mais c'est quand même un beau film.
C'est bien, quand tu passes en dernier, voilà. Tu peux donner ton avis sur tous les films.
Voilà ça. Et sinon, s'il joue encore le dernier Wes Anderson qui m'a complètement conquis. Je sais que c'était pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai trouvé que c'était déjà un formidable film d'aventure qui m'a rappelé les moments où je disais du Tintin ou même du Lucky Luke. C'est vraiment génial.
Si j'avais fallu le faire en live, c'était lui, quoi.
C'est vraiment impressionnant. Ça va à 2000 à l'heure. Au niveau de la mise en scène, bon, je sais que certaines personnes n'aiment pas parce que c'est vraiment très maîtrisé, presque trop maîtrisé, très tout est découpé, il storyboard de tous ses plans, donc t'as vraiment l'impression des fois que ça manque un peu de respiration. Mais moi j'étais vraiment embarqué dans le film à 200 à l'heure pendant tout le long, quoi. Donc j'ai vraiment adoré. Et un deuxième film, ce serait le dernier Jim Jarmusch aussi, Only Lovers Left Alive, qui est pareil aussi. Only Lovers Left Alive, pardon, qui est pareil, un espèce de film d'atmosphère comme ça, de fin du monde qui se passe entre Détroit étranger et j'ai jamais vu c'est une des plus belles représentations de ces deux villes-là que j'ai vu au cinéma, quoi. Et voilà, c'est vraiment un film un peu punk, jazz, de fin du monde, et c'est vraiment génial.
Bon, moi, je suis à peu près d'accord sur tous ces films. J'ai pas vu L'étrange couleur des larmes de ton corps, donc j'irai le voir. On en reparlera peut-être la prochaine fois on relancera le débat. Pour le coup, comme tous les bons films du mois ont été cités, je vous conseille d'aller revoir Cléo ou d'aller découvrir d'ailleurs Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, qui est ressorti en copie restaurée actuellement et qui prouve qu'en 1962, une des plus importantes cinéastes de la Nouvelle Vague, c'était Agnès Varda. Et malheureusement, on l'a un petit peu oublié quand on parle des grands films de l'époque, et Cléo de 5 à 7 l'est vraiment. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce podcast.
Ça a encore été un plaisir d'y participer.
Oui, merci, merci de m'avoir invité à donner mon avis sur Lego Movie. Sur...
merci, merci beaucoup à tout le monde. Et puis à très bientôt.
Salut.
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 See you, Space Cowboys.